Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Adem Djouadi, Elton Mokolo et Walid Acharchour, RMC, il est 20h30. Réduction de l'écart, attention Monaco à Louis II, rien dire ça.
4-1, désormais à 5 minutes de la fin. C'est Yanis Antiste, l'ancien Toulousain, qui a marqué.
Ah oui.
Bon, mauvais alignement de la défense monégasque d'Eric Dyer, l'anglais qui était complètement à la bourre par rapport à ses coéquipiers. Il y a toujours 4 buts d'avance pour l'AS Monaco à 5 minutes de la fin. Ça devrait aller pour la Conference League.
On parlera de Monaco tout à l'heure avec l'avis de Walid, intrigué par cette saison monégasque à venir. Le nouveau coach, Philippe et Louis, les recrues également, on va en parler. Supporter monégasque, on vous attend au 32-16. J'accueille deux dans le dame espagnole et anglaise, Edgar Grollo et Julien Laurent. Salut messieurs.
Salut Nico, salut tout le monde.
Julien, tiens, petite info breaking news. Chelsea a un nouveau gardien. Il est argentin, il s'appelle Dibu Martinez.
Ouais, et ça va un petit peu à l'encontre de tout ce que Chelsea a fait, en tout cas côté gardien ces dernières années, en recrutant très jeunes, que ce soit des Mike Penders, des gardiens comme ça, et même un Robert Sanchez à l'époque. Et là, c'est vrai qu'avec Martinez, ils avaient tellement besoin, ils étaient tellement en galère de gardien parce que Robert nous a encore fait des bonnes cagades contre Fulham lundi soir, qu'ils se sont dit, même un vieux comme lui, même avec son tempérament, il faut le prendre, ça va apporter un peu de leadership aussi, d'expérience, cette mentalité de vainqueur qu'il a, Dibu Martinez. Donc c'est une très bonne chose à 7 millions. Franchement, ça se prend pour un an ou deux, c'est très bien.
Bon voilà, Dibu Martinez, les gars. Chelsea, est-ce que le mariage
vous
excite un peu?
Pour moi, c'est une bonne acquisition et ça enlève une épine du pied à Aston Villa qui avait fait l'acquisition de Suzuki. Il avait trouvé une porte de sortie à Emiliano Martinez. Chelsea avait besoin cruellement d'un gardien parce que déjà, la saison dernière, entre Sanchez et Jorgensen, il n'y avait pas eu forcément de hiérarchie claire. C'est un enjeu qui est très important. Je te dirais, depuis le départ, c'était qui le gardien? Je l'ai oublié.
Peter Cech.
Edouard Mendy. Oui. Je pensais davantage à Edouard Mendy.
Etienne
Mendy.
Etienne Mendy.
Edouard, c'est un autre Mendy, mais oui. T'es moins bon dans les buts.
Etienne Mendy.
Attention, Edouard, tu confonds.
Non, c'est Edouard.
C'est Edouard.
Moi, c'est bugué.
Ouais. Donc, le fait d'avoir Emiliano Martinez habitué de l'appel, c'est une bonne acquisition.
Bon. Bon. De toute façon,
Mike Benders n'existait pas, je serais d'accord avec vous.
C'est bon, vas-y. Si Mike Benders n'était pas dans la liste de Chelsea, je serais d'accord avec vous. Mais là, franchement, pour moi, c'est l'un des futurs grands de venir au poste. Tu lui mets Dibu Martinez dans les pattes. Donc, c'est quoi? Faut l'envoyer en prêt encore à Strasbourg? Qu'est-ce qu'on fait avec Mike Benders?
C'est qu'ils sont pas rassurés par Mike Benders.
Parce que Martinez, il est plus sur la pente descendante qu'ascendante.
Oui, mais ça reste quand même une valeur sûre quand même.
Il vient de faire
finale. Au niveau du nom, mais sur les
dynamiques. Du monde, il a l'Europa League. Oui, mais
sur les dynamiques, je te dis que la dynamique de Mike Benders, je la trouve beaucoup plus attirante que celle de Martinez.
T'as pas de référence, la Ligue 1, malheureusement, pour Mike Benders, c'est très bien, mais.
C'est 9e de Ligue 1.
Aujourd'hui, avec Strasbourg, est-ce que tu peux aller chercher des autres?
Gardien, c'est un poste particulier. Je pense que t'as pas besoin d'être dans la meilleure équipe d'Europe pour montrer.
Paris au poste de gardien pour Chelsea, on l'a quand même donné. Hein.
Bon. Ouais, mais dans ce cas-là, fallait pas le prendre.
Bon, Adam, il s'est coupé pas, il était que des gardiens.
Il a fait avec Petrovic aussi. L'expérience Strasbourg première ligue avec Petrovic, c'était pas ça non plus. Donc, c'est pour ça, à mon avis aussi.
Il y a aussi l'expérience Petr Cech, qui était plus concluante. C'était il y a 15 ans, 20 ans, mais bon.
Alors. C'est Petr Cech?
Peter.
Non, peut-être Sech.
Je sais quand il y avait un bug sur Edouard Mendy aussi, peut-être qu'on n'a pas le nom.
Julien Sech, s'il te plaît. Le tirage au sort, les gars. Tiens, commence avec toi, Edgar. Le Real, je rappelle. Inter, Arsenal. Donc, les deux énormes morceaux quand même. PSV, la Roma. Magnifique, Gasperini. Leipzig, le Shakhtar, Linz, c'est autrichien. AEK Athènes. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Comment on commente là?
Non mais franchement c'est léger. En tout cas c'est quand tu compares par exemple au Barça ou même à l'Atlético, ils ont clairement le parcours le plus simple, même si simple. Voilà, c'est la Ligue des Champions, ça reste la Ligue des Champions. Donc forcément tu joues Inter, tu joues Arsenal, tu joues des bonnes équipes. Mais là si tu termines pas top 8, c'est décevant. Pour le Real, je pense qu'ils doivent faire le taf. Quand tu vois leur match à domicile déjà. Voilà, non mais quand tu vois les matchs à domicile, Inter, PSV, Leipzig, LASK, tu dois tout gagner déjà, tu dois tout gagner. Alors je dis pas que tous ces matchs-là vont être faciles, mais là faut assumer le statut, faut assumer l'équipe que t'as. Ça me paraît très très abordable quand même comme parcours pour le Real.
Donc c'est le tirage parfait pour le Real. Tu vas là où tu vas pouvoir prendre des points facilement et en plus t'as de quoi te tester avec Arsenal là-bas. Tu vas recevoir avec un match de gala l'Inter qui est pas un grand Inter, donc au final c'est le tirage parfait.
C'est un bon Inter quand même, attention.
Oui, c'est un bon Inter, mais au niveau européen ils sont pas invités.
Oui, mais tu as quand même tout testé.
Oui, c'est un bon vrai
test. Mais là, t'as aucune inquiétude quand tu vois le tirage.
Et puis après, je pense que t'as pas mal de matchs pour s'en
foutre. Tu les vois, les points.
t'as pas mal de matchs aussi pour s'enflammer pour rien avec les quatre attaquants.
Enfin, pour s'enflammer pour rien, déjà pour se qualifier dans le top 8 pour le Real.
Oui, d'accord.
Ce que t'as pas encore fait.
T'auras pas de certitude non plus si tu fais top 8 avec.
Faudra avoir un chemin beaucoup plus facile parce que quand tu tombes sur Arsenal en quart de finale, quand tu tombes sur le Bayern en quart de finale, oui. Tu réfléchis à deux fois avant d'attaquer
ta phase de groupe. Il n'y a pas de vérité absolue.
Le dernier double vainqueur pendant deux ans.
Oui, c'est le PSG. Le Real Madrid.
Nadal, Federer, Djokovic. Ouais, mais Walid. La Ligue des Champions.
Ouais, mais Walid, il n'y a pas de vérité absolue. C'est le PSG qui t'a montré qu'il n'y avait pas de vérité absolue. Moi, par contre, j'ai vu une vérité absolue. Le Real, à chaque fois qu'ils sont passés hors top 8, ils ont pris un gros en quart de finale.
On a vu quand même deux visages différents du PSG entre la phase de Ligue et la phase de.
Bien sûr.
Ça tombe bien, c'est Luis Enrique, il sera pas au Bernabéu.
Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, Mbappé, là, les quatre derniers matchs, Mbappé, comme l'année dernière, ça va terminer à 10, 11, 12 buts. Vinicius, Bellingham, etc. On revient en février, même avec un top 8. On dira, on attendra les gros rendez-vous.
Et puis prendre un gros en quart de finale de Ligue des Champions, il faut bien en prendre un à un moment donné. Si on ne prend pas en quart de finale, on prendra en demi, c'est la même chose. Donc à un moment donné, tu es le Real Madrid.
Non, il faut le faire.
Que tu fasses un barrage ou non, tu dois être dans le dernier carré.
Il faut faire le boulot. Mais
moi,
il faut faire le boulot.
Excusez-moi, les gars, je suis nouveau dans le métier, mais il y a un delta entre prendre le Sporting en quart de finale comme l'a fait Arsenal et prendre le Bayern comme l'a fait le Real parce que tu n'as pas été capable de te qualifier dans le top 8. Et oui, il y a une conséquence.
Oui.
Mais la finalité est la même.
Ce qui est marrant aussi.
Vas-y, Julien.
Juste ce qui est marrant, c'est qu'ils vont donc rencontrer le Shakhtar Donetsk à l'extérieur. Le Shakhtar va jouer ses matchs à Chelsea. Ça veut dire que José revient à Stamford Bridge. Pas contre Chelsea, c'est quand même le stade. Il est chez lui, quoi. C'est sa maison.
Tout à fait. Et l'info, c'est qu'on ne verra pas Mbappé sur le terrain de Ligue 1. Voilà, cette saison.
Oui.
C'est vrai, ça.
En tout cas, sur la phase de Ligue, bien sûr.
Alors, on avait vu quoi? Lille?
Brest? Guingamp?
Tu l'as vu à Guingamp contre Brest.
À Lille aussi.
Et tu l'as vu contre Lille aussi.
Ouais,
Lille. Exactement.
Mais l'année dernière, on l'a pas vu l'année dernière.
Contre Marseille, mais c'est au Bernabéu.
L'année dernière, il y avait Marseille et
Monabéu, t'étais.
Monaco.
Oui, c'est ça.
Le Barça, c'est un peu plus corsé, mais quand même, ça devrait aller. City pour le Barça. Le PSG. Aston Villa, Sporting Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Koum et Sabah, l'équipe d'Azerbaïdjan.
Ouais, c'est pas simple. Alors évidemment, quand t'es le Barça, tous les tirages auraient été abordables et jouables. Mais là, pour aller chercher le top 8, par contre, il va falloir être très 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 sérieux. T'as très peu de matchs où tu te dis bon voilà, c'est 3 points gagnés, offerts. Quand tu vois que dans le chapeau 3, par exemple, tu tires Galatasaray à l'extérieur, c'est pas un cadeau. Chapeau 4, tu tires Como, c'est pas simple. Il y a des beaux matchs, il y a des belles affiches.
Ouais,
PSG, je voyais que c'est le 14e Barça PSG depuis l'arrivée de QSI. C'est une vraie rivalité
maintenant. Il y a une vraie rivalité quand même.
Moi, il m'excite encore ce match.
C'est incroyable.
Moi aussi.
Il m'excite encore.
Ça vous lasse pas?
Ah non,
non, du pas. Là.
Ah non,
avec Modri, avec le nouveau Barça, avec les joueurs qui viennent d'arriver, avec le PSG qui en a gagné une.
Ah, il y a une nouvelle histoire qui se raconte.
Ouais, non, mais je sais pas.
Il a dit Ferran Torres qui bat le Barça.
En plus, l'année dernière, c'était là-bas. Cette année, c'est au Parc des Princes.
Il faudrait qu'il démarre déjà, qu'il soit titulaire. Mais en tout cas, Luis Enrique, oui, le storytelling, on en a peut-être marre autour du Barça, mais on les a eu l'année dernière avec une équipe remaniée du PSG. Là, tu vas l'avoir au Parc des Princes. C'est toujours un challenge, c'est toujours quelque chose d'intéressant.
C'est toujours des beaux matchs, surtout.
C'est toujours des beaux matchs.
Pour nous, observateurs,
le foot, c'est super.
Tu dis quoi, Jules?
Lamine contre Mendes. Lamine contre Nuno Mendes. On a encore un chapitre dans ce contrat-là.
Tout à fait.
Bien sûr.
Donc, deux Anglais pour Barcelone, Aston Villa et City. City, le groupe, Julien. Attends, je te pose la question de manière générale. C'était club anglais, lequel, parmi les trois gros, on va dire, City, Liverpool, Arsenal, est le moins bien loti selon toi?
Non, moi j'ai trouvé ça plutôt égal à chaque fois. D'ailleurs, il y a des tirages qui se ressemblent un petit peu, mais maintenant on a l'habitude. C'est le format qui veut ça, et etc. Il y a pas mal de Dortmund par exemple aussi, mais non, moi j'ai trouvé que celui de City il est intéressant parce que tu commences déjà. Enfin, on connaît pas encore l'ordre, mais t'as tiré le PSG, le Barcelone de la poule A. T'as aussi, tu vas avoir. Mais une fois que les deux gros de l'autre chapeau 1, en fait, puisqu'ils peuvent pas se rencontrer ensemble les Anglais, après le reste, tu regardes Manchester City, Sporting Portugal, Porto, Naples, Leipzig, Athènes et Lens. C'est cool pour Lens en plus parce qu'ils vont recevoir City et Erling Haaland et tout ça, mais pour City c'est normalement que des victoires. Alors c'est un City en transition et c'est là où ça rend les choses encore plus intéressantes, parce que pour moi c'est des groupes qui sont très abordables, et pour Arsenal et pour City et pour Liverpool. Villa c'est un petit peu différent parce que United revient dans la compétition, Villa parce que c'est très compliqué cet été avec tous les joueurs qu'ils ont perdu. Donc on verra, je pense que Villa ça peut être compliqué pour eux, mais c'est pour les trois gros dont on parle là. c'est que Liverpool et City sont en transition et tu sais pas vraiment dans quelle forme ils vont être, ni en septembre, ni en octobre. Donc ça peut être assez intéressant à voir comment ça va se passer, mais c'est très abordable pour les trois.
Et Arsenal, les gars, ça c'est hyper intéressant. La liste de courses, comme dirait Paulo Breitner, hyper excitante. Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich, Dortmund, Real Betis, Lille, Naples, Sabah et Slavia Prague. Évidemment, on n'a pas de doute hein, sur la suite de la compétition, ça va passer pour Arsenal, qui va jouer deux des favoris de cette Ligue des Champions aussi. Plus le Borussia, on va attendre un peu de savoir hein, ce qu'elle vaut cette saison, l'équipe de Niko Kovac. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien, ce tirage pour...
Non, pas, franchement, Arsenal. Dortmund, Séville, enfin, Dortmund, le Betis, même le Naples d'Allegri, c'est vraiment, pour moi, le Naples d'Allegri, c'est très moyen. Slavia Prague, ça va, c'est des matchs où tu fais tourner. Lille, voilà, c'est en plus à l'Emirates. Encore si ça avait été à Lille, on aurait pu dire, je crois que vous parliez tout à l'heure du match contre le Real, d'il y a deux saisons où Boadi avait fait la misère à tout le monde, mais c'était à Lille en tout cas. Je vois pas comment Lille peut aller à l'Emirates et si Arsenal prend les choses sérieusement et qu'ils peuvent aller gagner. Et même Dortmund à l'Emirates, j'y crois pas trop non plus pour eux. Donc, à part le Real et le Bayern, pour moi, c'est un tirage qui est plutôt bon pour Arsenal. Et encore une fois, il ressemble beaucoup dans ce côté-là, très abordable à celui de City. Et même si tu regardes Liverpool, à part l'Atlético et l'Inter, derrière, c'est Porto, Bruges, Villarreal, okay, Fenerbahçe à l'extérieur, peut-être Lens à domicile pour Liverpool, ça va être vraiment cool pour les Lensois d'aller à Anfield et d'avoir toute cette procession et tout ce qu'on veut. Et après Céline, je suis désolé, mais même pour Liverpool en transition avec Iraola qui connaît pas la Ligue des Champions, c'est très abordable.
Bon, voilà les amis. Vous avez en tête l'affiche qui vous excite le plus ou pas dans ce tirage?
Je viens de la citer, moi.
C'était quoi?
PSG-Barça.
D'accord. Ouais, tout confondu, ouais. PSG-Barça, toi, ouais. C'est le match. Ouais.
Bayern-Arsenal.
Ah, Bayern-Arsenal, c'est magnifique.
Après, il y a Viking Sabah, ouais, que j'aime beaucoup aussi. Viking Sabah, ça peut être intéressant.
Le Slavia Prague.
Il y a Atletico Bayern.
Slavia Prague Sabah, pas mal. Ouais. Aussi. Ouais, Viking Sabah, ouais.
Après, il y a Arsenal-Real.
Ouais, ouais, trois affiches.
Ouais.
C'est ça.
On va se régaler. C'est pour un Anglais, un Espagnol ou un Français cette saison, Julien, tu penses, toi? C'est l'heure des Anglais, ça y est?
Ah, je sais pas,
Arsenal
sera très fort, je pense. Arsenal sera très fort, ouais. Et puis surtout maintenant, ils ont la profondeur de banc pour pouvoir faire plus tourner, pour arriver peut-être un peu plus frais en quart, en demi et en finale, avec un jeu
ils
beaucoup moins
minimaliste.
Ils ont
fait demi, finale, c'est la prochaine étape.
Ça progresse, hein. Ça fait quart, demi-finale sur les trois dernières saisons. City, Liverpool, le problème, c'est que c'est, encore une fois, c'est en transition. Villa, ce sera trop compliqué. United, je pense aussi un petit peu à un moment. Mais des trois gros Anglais, en tout cas, ouais, c'est Arsenal qui a le plus de chances, j'imagine, d'aller le plus loin possible.
Qui est le plus mûr, Edgar, entre le Real et le Barça, tu penses?
Le plus mûr, c'est pas compliqué. Non, bien sûr, c'est le Barça. Après, honnêtement, je trouve que je pense que les deux sont candidats pour différentes raisons, mais le Barça a plusieurs longueurs d'avance toujours, et surtout, ça va être le grand objectif de leur saison. C'est la petite frustration qui leur reste parce que sinon, ils ont tout gagné, ils jouent bien, etc. Mais il leur manque encore ce titre-là pour vraiment marquer l'histoire du club.
Après, pour le coup, Edgar, là où je vais faire un pas de côté, le plus mûr, le Barça à la limite, mais qui est l'équipe à la meilleure culture de la double confrontation, ça reste encore le Real Madrid. Ah oui. Et ça, c'est un enjeu qui est pour moi très important, parce que ce que je veux dire par là, le comportement du Real Madrid l'année dernière face au Bayern, où le Bayern, et à un moment donné, ne sait pas où il est, il a fallu le rouge de Camavinga pour faire la différence. C'est des éléments à prendre en compte. Le Barça, et Dieu sait que je les regarde, sur la culture de la double confrontation, il y a encore de la marge de progression.
Notamment à l'extérieur.
Le Real Madrid, sur les deux dernières éditions, quand même, ils ne gagnent pas un match contre Arsenal et contre le Bayern aller-retour. Hein.
Mais de toute façon, globalement.
Enfin, je crois qu'ils perdent les quatre matchs, même.
Globalement, quand
oui, mais dans un monde normal, quand tu vois l'écart de niveau, ils auraient dû se prendre une tôle par le Bayern, par exemple.
De toute façon, quand on voit tous les chapeaux, là, on se rend compte qu'au rendez-vous en février, tous les gros sont là. Ils ont deux matchs de gala pour remplir bien la billetterie, nous faire plaisir. Le reste, ils vont aller prendre les points tranquillement.